Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On a l'habitude de dire que nombre de philosophies, de systèmes politiques et même de certaines traditions religieuses espèrent le royaume de Dieu dès ici-bas, un moment dans l'histoire à l'occasion duquel régnerait la justice et la concorde entre les hommes. La conviction des chrétiens, elle, est que le royaume n'est pas de ce monde. Mais doit-on pour autant tirer un trait sur le rêve de l'avènement d'un autre monde? Ce n'est pas ce que pense mon invité de ce matin qui plaide lui carrément pour une révolution mystique, une sorte de révolution par l'intérieur qui verrait se lever une foule nombreuse d'hommes et de femmes brûlés par un feu qui ne s'éteint pas. Cette émission Vivante Église, en ce lundi, Revue Carmel, plaidoyer pour une révolution mystique ou un renouveau mystique avec le frère Baptiste, Carme, du couvent de Brousset à Bordeaux et rédacteur en chef de la Revue Carmel. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez vu, je vous ai assaisonné dans mon introduction.
Ah, quelle introduction.
Ah, faut se donner la pêche quand même le matin. Hein. Mais chacun sa manière d'avoir la pêche, j'ai envie de dire. Alors, ça sera un peu le début de cette émission, parce que c'est vrai que dans cette émission, on finit par s'habituer à inviter, j'allais dire, presque des fadas. Est-ce que vous auriez juste un commentaire pour peut-être, j'allais dire, souligner le sérieux de mon introduction? Mais de fait, bien des hommes aspirent à une forme de royaume, même s'ils ne le nomment pas comme
tout
tel,
dès
ici-bas, bien des philosophies, des systèmes politiques. Est-ce que vous pouvez faire juste écho à ça d'abord avant de...
Oui, bah, même votre introduction me fait penser à ce que Jean-Paul II disait de la civilisation de l'amour. Il reprend cette expression du pape Paul VI, qui avait une grande espérance pour... non pas le royaume de Dieu sur la terre tel qu'il sera à la fin des temps, hein, mais pour une société plus juste dans laquelle l'amour soit au centre et une solidarité puisse s'instaurer d'une manière concrète entre les hommes. Et cette espérance, il la tire peut-être de systèmes philosophiques, mais bien plutôt de sa méditation de la Bible, d'une certaine espérance messianique, qui ne doit pas devenir une sorte d'utopie révolutionnaire qui a produit les effets désastreux que le 20e siècle ont pu manifester, mais qui doit produire petit à petit une introduction du règne de l'amour de Dieu d'abord dans les cœurs, puis par des mesures concrètes dans la vie des sociétés.
Mais vous qui avez choisi de donner votre vie à la prière, puisque c'est quand même en fait le premier travail des carmes, non ?
Tout à fait.
C'est de brûler. Pour Dieu, est-ce que vous avez l'impression que vous, entre guillemets, vous êtes carme dans un monde ou dans un pays qui cherche encore ou qui aspire encore d'une certaine manière à l'avènement de ce royaume, ici-bas par d'autres moyens déjà? Et à votre avis, est-ce qu'il continue à l'espérer d'une certaine manière secrètement ou vous avez l'impression qu'il n'y croit plus?
Ah, moi, il me semble qu'il y a cette grande aspiration demeure, et c'est sur elle d'ailleurs que les hommes politiques essayent de jouer pour que les gens leur soient favorables. On le voit bien, par exemple, dans le discours du président de la République, il y a toute une veine mystique sur laquelle il essaye de s'appuyer pour présenter un programme politique. On le voit aussi dans des partis opposants, comme la France Insoumise. Les représentants de ce mouvement essayent de jouer sur les grandes aspirations révolutionnaires des Français pour présenter leur programme. Donc on sent bien que cette aspiration demeure dans le cœur des gens. Et que la France, depuis des siècles, va de révolution en révolution, en espérant justement cet avènement, mais peut-être sans en donner le contenu véritable qui permettra de tout changer sans faire tout brûler.
Incroyable. Ce matin, donc, on enverra l'émission à Emmanuel Macron. Je sais pas si.
Oh, j'espère.
Je sais pas s'il écoutera ou même s'il ouvrira notre mail, mais peut-être essaiera-t-on. Juste quelques mots de présentation, parce que donc vous êtes carme. Alors
oui.
On reçoit des carmes régulièrement à cette antenne, surtout depuis que le premier lundi de chaque mois, on a donc cette émission qui s'appelle l'École de la prière, fait en partenariat avec les frères carmes de Toulouse, pour essayer d'aider nos auditeurs, nous aider à rentrer dans une relation suivie avec Dieu. Vous étiez en fait à Toulouse avant.
Oui.
Je sais pas, en quelques mots, pourquoi on devient carme juste
Mais je vous avoue que moi...
Qu'est-ce qui vous a pris
Moi, mon grand rêve, mon grand désir, c'était d'être franciscain. parce que je voulais servir les pauvres et qu'il me semblait que le grand problème de la société actuelle, c'était cet oubli que l'on faisait d'une grande partie de la population. Et l'idéal de saint François d'Assise me semblait justement ce dont le monde avait besoin. Et d'ailleurs, le fait que le pape François le ressente aussi me conforte. Mais c'était pas dans les plans de Dieu, puisqu'à chaque fois que j'allais visiter les franciscains, je me sentais une grande aspiration pour rester en solitude dans ma cellule. Alors je me disais qu'il commençait à y avoir une certaine incompatibilité, et j'ai cherché à en comprendre les raisons, et peu à peu je me suis rendu compte que Dieu avait un autre appel sur moi, c'était celui de faire du bien à mes frères, à la société, de l'intérieur par la vie de prière. Et donc d'avoir un certain isolement par rapport à la vie concrète et au déroulement des événements de ce monde, non pas pour quitter le monde, mais pour influer sur lui de l'intérieur en touchant les cœurs par la prière. Donc c'est d'abord un appel, je crois, à servir l'humanité en devenant les coopérateurs de la grâce. C'est-à-dire Dieu veut donner sa grâce à tous les hommes et pour cela il veut que les hommes le prient selon son cœur. Et donc il en appelle certains à avoir une vie plus particulièrement consacrée à la prière.
Vous êtes comme des super paratonnerres, c'est ça pour...
Ben, si on prend l'image du tonnerre comme une image qui manifeste l'amour de Dieu, l'amour tout-puissant de Dieu, on pourrait dire qu'on reçoit sur nous les fous de cet amour tout-puissant, mais pour les faire rayonner sur le monde.
Alors donc vous êtes depuis peu rédacteur en chef donc de la revue Carmel. Alors
oui.
Comment est-ce que vous pouvez présenter cette revue? Il y a deux, donc il y a les éditions du Carmel en France,
oui,
qui publient donc un certain nombre d'ouvrages de spiritualité,
exactement,
principalement inspiré par la spiritualité qui est celle de votre ordre, donc la spiritualité carmélitaine. Il y a la revue Vie Flamme. On avait fait une émission, je crois, il y a un an ou deux,
oui,
avec son rédacteur en chef, qui est une forme en fait de manuel ou de guide de prière pour,
exactement,
ceux qui se lanceraient dans la vie de prière, dans la vie d'oraison.
Exactement.
Et donc il y a la revue Carmel. Alors qu'est-ce que c'est la revue Carmel?
La revue Carmel s'adresse à tous les chrétiens qui veulent non seulement avoir une vie d'oraison, mais voir comment cette vie d'oraison peut éclairer les autres domaines du savoir ou de la vie humaine. Et donc, si la revue Vie Flamme va vous donner, on pourrait dire, des sucres rapides pour alimenter votre vie de prière et persévérer dans votre vie de prière, la revue Carmel va essayer de vous donner des sucres lents, c'est-à-dire pouvoir faire un marathon dans votre vie de prière et voir comment cette vie est capable d'illuminer tout un tas d'aspects de la vie de la société ou des grandes questions que se pose l'Église en essayant de toucher la racine même du problème. C'est-à-dire contempler toute chose à la lumière de l'expérience de Dieu. Ou même, on pourrait dire, contempler toute chose avec le regard propre de Dieu.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ?
Bah oui, par exemple, il y a eu un numéro sur l'écologie récemment, et c'est vrai que l'écologie, bon, c'est une question qui est assez actuelle, le pape en a parlé, on continue à en parler beaucoup dans les médias, et il me semble que pour avoir un regard juste sur notre rapport à la création, la vie spirituelle va nous donner quelques lumières, parce qu'elle va nous faire voir la création comme une œuvre sortie des mains de Dieu. La théologie nous l'apprend, la philosophie peut nous le donner à découvrir, mais la vie spirituelle le fait expérimenter comme tel. C'est-à-dire que celui qui a sa vie d'oraison et qui se balade dans un jardin, il va voir un beau chêne et va découvrir ce chêne comme le signe de l'amour de Dieu pour lui. Concrètement, la beauté de ce chêne va lui parler de Dieu, et la beauté de l'amour qu'il va découvrir en Dieu va lui dire à quel point il est aimé de Dieu et à quel point cet amour de Dieu veut se répandre à travers sa création. Si bien que son rapport avec le chêne ne va plus être le même. Ça ne va pas être celui d'un regard esthétique, ça ne va pas être non plus celui d'un regard d'adoration d'un nouveau paganisme, ça ne va pas être non plus celui du désintérêt, mais celui du chêne à sa juste place dans le plan de la création. Et donc je vais vouloir ne pas l'abîmer, je vais vouloir bien l'entretenir, je vais vouloir participer à sa croissance pour qu'il devienne beau et qu'il puisse réjouir le cœur des autres hommes. Vous voyez, c'est ce regard juste sur toute chose que la vie mystique favorise.
Vous voulez dire, c'est quoi? C'est une manière de regarder toute chose, mais de tout en haut, c'est ça?
Ou exactement. Tout en haut, revoir toutes les choses de tout en haut. On pourrait dire, la vie d'oraison, son premier but, c'est de nous faire voir Dieu, autant qu'il est possible de le voir sur la terre. Et ensuite, quand cette familiarité s'est installée dans le cœur de celui qui prie, eh bien, avec Dieu lui-même, il regarde toutes les autres réalités. Et donc, il va découvrir les hommes, aussi bien ses amis que ses ennemis, comme des enfants bien-aimés du Père à sauver absolument. Le mystique, quand il marche dans la rue et qu'il voit une foule immense de personnes qui ne connaissent pas Jésus, a le cœur blessé. Il a le cœur blessé. Il ne peut pas être indifférent au salut de ses frères. ou quand il un grand débat de société est discuté dans les médias, où le mystique va essayer de comprendre la racine profonde du problème qu'il y a derrière ce débat. D'abord, il répond par sa prière, parce qu'il sait très bien que les cœurs ne l'écouteront pas tant qu'ils ne seront pas ouverts. Et pour que les cœurs soient ouverts, il faut la prière. Dieu en a disposé ainsi. Donc il va commencer par prier et ensuite essayer de trouver s'il a un rôle à jouer dans ce débat. Vous voyez, il y a une nouvelle fécondité qui s'installe par la vie spirituelle parce que les choses sont vues à la lumière de celui qui a créé le monde et qui continue à le diriger.
Alors vous avez vous avez pour vous certaines périodes de l'histoire. Il y en a une qui plaide en faveur de cette révolution mystique, ce renouveau mystique, si c'est pas une révolution. Et vous vouliez en parler, c'est entre autres donc cette période du XVIIe siècle qui a vu se développer ce qu'on appelle l'école française de spiritualité.
Oui.
Alors pour ne pas trop perdre nos auditeurs, je compte sur vous pour être le plus didactique possible. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être dans quel contexte était la France?
Oui.
Comment est née cette école française de spiritualité et quelle était-elle en fait?
Alors, on est au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, dans un siècle qui est déchiré intérieurement par les guerres de religion qui ont été celles du XVIe siècle, entre catholiques et protestants, ou plutôt, on pourrait dire, guerres politiques sous couvert de religion bien souvent. Donc nous avons des factions qui se sont opposées, qui se sont déchirées, qui se sont entretuées. Au sein même du catholicisme, il y a ceux qu'on appelle les politiques, qui sont en faveur du roi, et ceux de la Ligue, qui sont justement pour une sorte de restauration catholique de la société française par le moyen des armes. Donc même au sein de l'Église catholique, nous sommes divisés. Et le XVIe siècle est aussi celui du Concile de Trente, c'est-à-dire de mesures de réforme décidées par le Concile de Trente en faveur... Dans l'Église catholique, en faveur d'une rénovation de la vie du clergé séculier et de la vie du clergé régulier, donc de la vie des prêtres diocésains et de la vie religieuse.
Et qui fait suite à la réforme elle-même. Enfin.
Et qui est une réponse à la réforme et en même temps qui est une réponse à un désir de réforme qui habitait le cœur de l'Église depuis déjà quelques siècles.
Donc, à l'intérieur de ça, donc naît cette école française de spiritualité autour de plusieurs figures.
Oui.
Donc Pierre de Bérulle, et oui. Pas seulement. On reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission sur une autre figure qui est donc Madame Macari.
Tout à fait.
En quoi a-t-elle consisté cette école française de spiritualité? À vous entendre tout simplement, si on connaît un peu l'histoire, c'est un renouveau très profond.
Oui.
Voilà, de la société française par le biais justement d'un renouveau mystique.
Exactement. Alors, la vie mystique, on peut le dire ainsi, n'a pas été l'unique élément du renouveau de la société française, mais comme une sorte de catalyseur. C'est-à-dire que si les cœurs et les intelligences sont ouverts à l'influence de Dieu, eh bien, ils vont découvrir en eux des potentialités qu'ils n'auront jamais découvertes. Ils vont pouvoir les mettre en œuvre, aussi bien sur le plan de la culture que de la vie politique. La vie mystique ne gomme pas tous les problèmes, mais elle permet à chacun de recevoir les influences de Dieu pour donner une réponse juste et adéquate aux problèmes du temps qui est à vivre.
Mais alors, comment a-t-elle commencé?
Et alors, cette école de spiritualité française, pour parler d'une manière générale, commence dans le salon de Madame Macari, on en reparlera plus précisément, par une sorte d'émulation spirituelle qui se fait autour de cette belle figure de Madame Macari, qui sera ensuite appelée Marie de l'Incarnation, et qui va réunir autour d'elle des personnes comme Pierre de Bérulle, son cousin, Saint François de Sales, qui commençait déjà un ministère... Dans le coin d'Annecy et de Genève, Monsieur Vincent de Paul, qui va avoir une grande influence sur la vie. Saint Vincent de Paul, voilà,
très
c'est
grande
ça.
Figure de la charité,
grande figure de la charité et qui grande figure de la charité dont le déploiement n'a été possible justement qu'au contact de cette vie spirituelle intense qui se vivait au salon de Madame Macari, dans lequel Dieu était mis à la première place. On essayait de correspondre à ses lumières et on découvrait en Madame Macari un conseiller spirituel pour essayer de mettre sa vie en adéquation au projet de Dieu sur soi. Et Pierre de Bérulle, qui va être un des grands penseurs, la tête pensante de ce renouveau mystique, aura comme idée de mettre Jésus dans son humanité sainte.
Alors justement, oui, c'est ça. Quelles sont les particularités en fait de cette école spirituelle? Si j'ai bien compris, un peu Trois mots-clés, c'est adoration, amour.
Exactement.
Et mission.
Exactement. C'est-à-dire...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
On va considérer Jésus comme l'adorateur du Père. Donc, on va s'unir à Jésus dans les mystères de sainte incarnation pour adorer avec lui le Père. Donc, vous avez un courant théocentrique assez radical. On va adorer le Père en esprit et en vérité en se plongeant dans les mystères de la vie de Jésus. Et Pierre de Bérulle va méditer les mystères de l'incarnation. Il va écrire tout un ouvrage sur la vie de Jésus qu'il n'achèvera pas et dont la majeure partie se déroule dans le sein de Marie. Que fait Jésus dans le sein de la Vierge Marie ? Il adore le Père en esprit et en vérité, et nous allons nous unir à son adoration. Donc vous avez un courant théologique qui est d'une puissance mystique assez phénoménale. Et à ce courant va s'associer une réforme concrète de la vie du clergé, puisque Jésus est l'adorateur parfait, eh bien les prêtres qui doivent être de nouveau Jésus-Christ sur la terre vont devenir d'abord des serviteurs de Dieu, des adorateurs du Père, et vont privilégier leur vie de prière avant toute chose, et c'est de leur vie de prière que la fécondité de leur ministère va trouver une source.
Peut-être il y a un exemple plus récent, vous vouliez faire un parallèle entre justement cette période du XVIIe siècle,
oui,
et le début du XXe siècle. Alors dites-nous pourquoi, quel est ce renouveau du début du XXe.
Alors pour bien comprendre, juste donc le XVIIe siècle, on l'appelle le grand siècle français, c'est-à-dire un siècle qui s'est manifesté par une grandeur de la culture, de la diplomatie, de la politique, et qui a été... entre autres rendu possible par cette émulation mystique. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, on voit aussi une grande ferveur mystique qui se réveille auprès de personnalités comme par exemple Jacques Maritain à Toulouse, mais pas seulement. Des revues vont se créer, la revue d'ascétique et de mystique, la revue Carmel d'une manière beaucoup plus humble, hein, revue d'ascétique et mystique chez les dominicains, la vie spirituelle chez les jésuites. Beaucoup de revues se créent autour justement du thème de la spiritualité et du renouveau de la compréhension de la vie spirituelle dans la vie de l'Église. On va établir de plus en plus cette vie spirituelle comme une science d'amour, et la petite Thérèse ne sera pas pour rien dans cette nouvelle émulation mystique.
Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus, exactement. Et autour de ces figures, comme celle de Jacques Maritain, une émulation aussi culturelle et littéraire va se manifester. Jacques Maritain sera en contact avec Cocteau, il connaîtra bien Peggy, Bernanos ne sera pas très loin non plus. Donc on voit bien que ces grandes figures qui ont marqué la vie culturelle de la France ont été comme réchauffées par la vie spirituelle qui habitait le cœur d'un bon nombre de Français et qui était favorisé par toute une réflexion qui l'entourait et qui l'accompagnait.
Alors, comment ne pas vous poser la question pour aujourd'hui ? Est-ce que sourde, je ne sais pas si c'est, on dit sourde, mais
oui.
Est-ce qu'il y a aux quatre coins de la France ce renouveau mystique ? Est-ce que vous prêchez dans le désert comme Jean-Baptiste ?
Alors, je pense,
qu'il y aurait comme signe ?
C'est ça, un désert qui va refleurir. Parce que on voit bien déjà le développement des écoles d'oraison. Même si c'est petit et c'est humble pour l'instant, hein, n'empêche qu'il y a une croissance constante et générale depuis le début des écoles d'oraison. Donc ça, c'est un bon signe.
En tout cas, quand on vous invite, j'entends que vous êtes débordé par les demandes d'écoles d'oraison.
Exactement. Et il me semble que c'est encore... Vous voyez, ce n'est qu'un tout petit signe, parce qu'il faut, dans l'esprit du père Caffarel et du père Josion qui l'a suivi, et dans l'esprit de Jean-Paul II...
Alors juste précise, hein, parce que le père Josion et le père Caffarel, c'est un peu deux grandes figures...
Deux grandes figures des écoles d'oraison.
Voilà, des écoles d'oraison, c'est-à-dire ouais. Cette prière, cette forme de la vulgarisation de cette forme de prière auprès du grand public et des laïcs. Ouais.
Tout à fait. Et qui mettent en œuvre d'une certaine manière ce que Jean-Paul II a demandé à l'aube du troisième millénaire. C'est-à-dire que toutes les communautés chrétiennes puissent être comme des écoles de prière. Si bien que les écoles d'oraison, ce sont des tout petits débuts, mais il faut que cette vie d'oraison imprègne toutes les paroisses, toutes les familles, toutes les communautés religieuses pour que cette émulation spirituelle puisse porter des fruits. Parce qu'il me semble que pour qu'il y ait un véritable renouveau spirituel, comme celui du XVIIe ou comme celui du début du XXe, et même mieux encore, parce qu'il faut qu'il arrive à son achèvement, il faut qu'il y ait aussi un nombre suffisant de priants. Et donc, il faut qu'une dimension quantitative est nécessaire.
À quoi ressemblerait, ce sera ma dernière question avant une première pause musicale, si, imaginons que la France s'embrase comme ça d'âme de prière,
oui.
À votre avis, quel visage pourrait prendre la France en tout cas ? Qu'est-ce que ça changerait dans notre société française, dans notre quotidien à votre avis ?
Eh bien, il me semble qu'au niveau des structures, il y aurait peu de changements. Il me semble. Hein. C'est-à-dire que les structures de la société telles qu'elles sont actuellement sont tout à fait, en gros, conformes à la doctrine sociale de l'Église. Par exemple, la Ve République, bon, bah, en soi, elle promeut des valeurs que la doctrine sociale de l'Église approuve. Il est sûr qu'il y a des questions sociétales aujourd'hui qui sont beaucoup plus brûlantes. Mais on va dire, d'une manière générale, il y aurait peu de changements structurels profonds. Par contre, les idéaux que la France essaye de promouvoir auprès de tous les Français, de liberté, d'égalité, de fraternité, seront rendus véritablement vivables et accessibles parce que la vie de la charité les animera de l'intérieur. Vous voyez, une liberté qui n'est pas animée par la charité, eh bien, ça devient une liberté absolument déconnectée de toute réalité. Une égalité déconnectée de cette vie d'oraison qui vous fait voir tout homme comme des frères, eh bien, ça devient une égalité seulement numérique où tout le monde doit être absolument soumis aux mêmes conditions et aux mêmes prorata, si vous voulez. Donc, c'est une égalité qui est purement mathématique et qui n'a que peu de sens. Vous voyez, ces idéaux que la France essaye de faire vivre dans le cœur de Français seront rendus effectivement vivables parce que cette vie de charité les imprégnera de l'intérieur.
Voilà, bienheureux les fadas, bienvenue, frère Baptiste, je vous taquine. Carme est rédacteur donc, en chef de la revue Carmel. On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après.
Présence.
Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc Revue Carmel, plaidoyer pour un renouveau ou une révolution mystique. Alors on va dire plutôt renouveau, allez on va rester calme, avec le frère Baptiste Carme du couvent de Brousset près de Bordeaux et rédacteur en chef donc de la Revue Carmel. Je vous redis pas bonjour, mais certains auditeurs peut-être vont vous entendre pour la première fois puisqu'il y en a qui nous rejoignent en cours de route. Alors dans cette deuxième partie d'émission, je voulais peut-être nous aider à, comment dire, à plonger dans ce qui fait la saveur de cette Revue Carmel. Je rappelle donc cette Revue Carmel, c'est les sucres
lents.
Lents de la spiritualité. Alors, redites-nous sucre lent, sucre rapide, là, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie.
Ceux qui veulent entretenir leur vie d'oraison peuvent lire avec profit la revue Viflamme, qui va leur parler de Dieu et leur montrer comment faire pour prier concrètement dans le quotidien.
Donc, c'est une petite revue.
C'est
de
une
quoi,
petite revue.
40-50 pages, c'est ça?
C'est ça.
Qui est mensuelle.
Qui est trimestriel, voilà, c'est ça. Et donc qui permet d'ancrer cette vie d'oraison au quotidien. Et la revue Carmel va vous aider à avoir un regard de sagesse sur la réalité qui vous entoure, en la contemplant sous l'angle de l'expérience avec Dieu.
Voilà.
Comment la réalité qui vous entoure vous parle de Dieu et vous donne à l'aimer un peu plus.
Avec des sujets beaucoup plus larges, en l'occurrence.
C'est ça, ouais.
Reprenez un exemple peut-être de sujet plus large qu'a traité la revue Carmel ces derniers temps.
Par exemple, les moyens de communication sociale. Comment faire pour que ces moyens de communication ne soient pas un obstacle, une drogue, mais puissent favoriser une vie spirituelle? Quelle est la juste distance, la juste assaise?
Alors, on imagine que vous évoquez aussi dans cette revue Carmel régulièrement des grandes figures spirituelles.
Oui.
De la spiritualité carmélitaine, mais peut-être pas que.
Pas que.
Il y en a deux que vous avez choisis. La première, on en a parlé un petit peu dans cette première partie de l'émission, c'est ce qu'on appelle, celle qu'on a appelée Madame Akari,
oui.
Ou Marie de l'Incarnation, puisque cette femme a fini par devenir religieuse.
Même bien heureuse.
Marie bien heureuse. Alors je vais la présenter brièvement, et puis vous compléterez, et puis on va essayer de parler un petit peu de sa vie, en essayant de la rendre la plus, comment dire, la plus proche de nous, même si elle a une vie bien singulière. Donc elle est née à Paris le 1er février 1566, morte donc en 1618. Elle est d'une famille de la haute bourgeoisie de finance, proche des Guises, pour qui ça évoquerait quelque chose. C'est d'abord une femme qui, au début de son existence, on va dire, est bien née et a envie,
oui,
de devenir religieuse.
Oui.
Et ses parents s'y opposent, on va dire, avec force.
Exactement. Ils veulent la marier à quelqu'un de prestigieux, Monsieur Akari, qui était une grande figure de la Ligue et qui pourrait assurer à la famille de Barbe Avriot, c'est son nom de jeune fille, une lignée assez noble.
Redites en deux mots ce qu'est la Ligue à cette époque.
Alors la Ligue, c'est la résistance au protestantisme d'une manière politique. C'est-à-dire qu'on va faire se lever des armées pour essayer de défendre la foi catholique au moyen des armes. Et on va avoir une méfiance de plus en plus grande à l'égard du roi, qui n'est pas aussi radical dans sa réponse au protestantisme, mais qui avait le souci de préserver l'intérêt national en premier.
Alors j'ai cru comprendre que ses parents étaient opposés. J'ai lu qu'en fait pour la punir en fait de son refus de se marier, sa mère aurait été jusqu'à la soumettre aux rigueurs de l'hiver et elle aurait eu un pied gelé.
Oui, elle a employé les méthodes fortes, c'est-à-dire
elle l'a fait dormir dehors en fait. Ou...
Oui, et en fait dans une. Alors je crois que c'est dans une chambre sans chauffage. Dans une chambre sauf. On rigolait pas à l'époque. Il fallait obéir aux parents.
Toujours est-il que donc cette femme se marie donc à Pierre Akari. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce couple qu'on sait être en fait un couple qui s'est aimé profondément,
oui.
Et cet homme a fait du chemin au contact de cette femme qui était,
exactement,
déjà une grande priante.
Tout à fait. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une relation réciproque entre les deux, puisque au début, donc Madame Akari aime beaucoup son mari, a une vie de société assez brillante. On l'appelle la belle Akari parce qu'on aime venir dans son salon et l'inviter au repas parce qu'elle a un certain charme naturel. Elle est belle et elle a une belle conversation aussi. Et donc Madame Akari se laisse un petit peu attiédir par les charmes de la vie mondaine. Et son mari, un peu soucieux de la vie spirituelle de sa femme, prend conseil auprès d'un directeur et va écarter tous les livres de chevalerie et d'amourette qui pourraient détourner sa femme de sa relation avec Dieu pour lui donner plutôt à lire des livres spirituels. Et Madame Akari va tomber sur un livre dont on ignore le titre et l'auteur et dans lequel elle va découvrir cette phrase « Trop est avare à qui Dieu ne suffit. »
Redites-la.
« Trop est avare à qui Dieu ne suffit. » En d'autres termes, Dieu seul suffit. Et cette phrase va être pour elle une sorte d'illumination, et elle va mettre réellement et concrètement Dieu à la première place et commencer une carrière mystique qui sera assez étonnante. Elle va avoir une
carrière mystique. On peut faire carrière.
Ah oui, je pense. Ah
oui, oui. C'est la première fois que j'entends ça.
C'est avec une analogie et des différences avec la carrière mondaine.
Alors redites un mot aussi de la place qu'elle a eue, vous l'avez dit dans la première partie de l'émission, mais justement dans ce renouveau mystique du XVIIe siècle.
Et ben, donc les salons mondains auxquels elle était habituée vont peu à peu se transformer en salons spirituels. Et les gens vont venir chez elle, non seulement pour boire une tasse de thé, mais aussi pour recevoir des conseils spirituels. Si bien que l'expression consacrée, c'est de dire que le tout Paris mystique va chez Madame Acari, aussi bien les prieurs de la Chartreuse que des
Capucins.
Tous
ceux qui font d'autres carrières mystiques, c'est ça?
Exactement. Et tous ceux qui sont intéressés par le renouveau spirituel et culturel de la France, qui était très affaibli par les guerres de religion et par une décadence de la vie religieuse en général. Donc tous ces gens qui ont des projets de renouveau, en commençant par le haut et par la vie spirituelle, viennent auprès de Madame Acari parce qu'ils sentent chez elle un foyer brûlant de charité à partir duquel tout pourra repartir.
Alors redites deux, trois mots peut-être de certaines figures, comme par exemple Saint François de Sales.
Exactement.
Ou Saint Vincent de Paul.
Exactement.
Saint Vincent de Paul avait ses habitudes, et redites,
oui,
quelques mots aussi pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas bien Saint Vincent de Paul.
Donc Saint Vincent de Paul, c'est le grand fondateur des missions lazaristes. Donc, le premier projet pour Saint-Vincent de Paul, c'est de former un clergé suffisamment solide pour qu'il puisse honorer l'état de prêtre au service de Jésus-Christ et qu'il puisse servir le ministère des âmes d'une manière adéquate à ce qu'est la vocation d'un prêtre. Donc ça, c'est son premier objectif. Et dans cette dimension-là, il se situe dans la ligne de Pierre de Bérulle, qui remet l'état sacerdotal vraiment à sa valeur au centre de la société. Et ensuite, d'une manière concomitante, Saint Vincent de Paul, c'est aussi la grande figure de charité concrète au sein de la société. On l'appelle même le père de la patrie, tellement il a contribué à l'exercice de la charité avec les filles de la charité, congrégation qu'il va fonder en partenariat avec Louise de Marillac.
Il faut quand même redire aussi, par exemple, à Paris,
oui,
les proportions de... comment dire, de cette charité en nombre. Enfin, je m'exprime mal, mais à ce moment-là, Paris est très pauvre. Enfin,
exactement.
Il y a beaucoup de miséreux à Paris.
Beaucoup de miséreux.
Et Saint-Vincent de Paul vient en aide à quoi, une grande
partie? Des milliers.
De la ville, non? Des
milliers. Et non seulement Paris, mais aussi toutes les régions alentours qui sont affaiblies par les guerres. Il est, on pourrait dire, le premier ministre de la santé au niveau national, puisqu'il va organiser des collectes de dons pour toutes les populations, notamment en Champagne, ou en Lorraine, qui sont très affaiblis par les guerres du XVIIe siècle.
Alors, cette femme donc, fait son chemin, sa carrière mystique, comme vous dites en plaisantant, elle devient de plus en plus mystique.
Exactement.
C'est-à-dire que, enfin, on va dire que la mystique est de manière, entre guillemets, vulgaire, accessible à tout le monde, mais certains ont des grâces particulières.
Oui.
Et elle, donc, ça va être son cas, jusqu'à avoir certaines révélations et même avoir ce qu'on appelle les stigmates.
C'est ça. C'est ça. Et même avant ça, ce qui est très drôle, c'est que Sainte Thérèse d'Avila, qui était déjà morte depuis quelques années, lui apparaît dans une vision et lui demande de faire fleurir en France l'ordre du Carmel qu'elle a réformé en Espagne. Et donc, pour elle, cette vie mystique va être une capacité à recevoir les influences du ciel pour le service de sa propre société. Et elle va découvrir que les lumières que lui donne Dieu à l'intérieur d'elle-même... D'ailleurs, on est peu au courant du contenu concret des révélations dont elle a bénéficié parce qu'elle était très discrète. Mais ces lumières que Dieu lui donne, qui vont la transformer, vont contribuer aussi à transformer la société, notamment en faisant venir les carmélites d'Espagne et en faisant éclore dans toute la France, par le biais de ces carmélites et d'autres encore, une vie spirituelle généralisée.
Je vois le temps qui passe, donc je passe à la deuxième figure que vous vouliez évoquer, qu'on pourrait peut-être trouver à l'occasion dans la revue Carmel. D'ailleurs, vous en parlez dans celle qui est à paraître au mois,
oui,
de décembre. Donc, c'est François Palau.
Exactement, alors, Palau.
Palau, pardon.
Ouais.
Alors lui, je le présente brièvement et puis vous allez me dire pourquoi vous l'avez choisi. Donc, il naît en 1811 en Espagne, il décède en 1872. C'est donc un carme.
Oui. Hein.
Voilà. Et c'est un homme qui naît dans un contexte particulier puisque c'est la révolution en Espagne. Vous allez nous dire ce que c'est que cette révolution en quelques mots. Et c'est un homme qui connaît du coup une vie religieuse compliquée, qui connaît deux grandes périodes d'exil, une entre autres en France et près de chez nous même, dans le diocèse de Montauban.
Tout à fait.
À côté de Notre-Dame de Livron. Et puis une deuxième période d'exil à Ibiza. Si vous deviez résumer sa vie et compléter le trop rapide portrait que je viens de faire et nous redire ce qu'était la Révolution en Espagne.
La Révolution en Espagne, ce sont les idéaux de la Révolution française qui s'introduisent par les armées napoléoniennes. Et donc, il y a cette aspiration à sortir d'un ordre dans lequel l'Église d'Espagne a une certaine puissance temporelle. Mais cette aspiration se traduit par des mesures extrêmement violentes à l'égard des religieux. Et notamment, le bienheureux François Palao, 3 ans après son entrée au Carmel, voit son couvent brûler et ses frères qui sont égorgés. Donc, vous avez un petit peu comme dans la France du 18e, mais aussi du 16e siècle, deux factions qui se créent en Espagne, celle des libéraux qui soutiennent Isabelle II, l'héritière légitime du trône, et les carlistes qui soutiennent Don Carlos, qui serait plutôt l'héritier d'une Espagne traditionnelle et catholique, et ces deux courants seront irréconciliables.
Donc ça, c'est la Révolution
d'Espagne. Ça, c'est la Révolution.
Et donc, lui, au milieu de ça ?
Eh bien, lui, au milieu de ça, va se garder de prendre position entre ces deux visions politiques de la société et il va profiter de son exil en France pour essayer de poser sur sa nation tourmentée et blessée en son cœur même un regard de sagesse. Il va se demander, mais quelles sont les causes de ce déferlement de violence qui agite l'Espagne ? Et son regard, en raison de sa vie intérieure, va se porter vers les réalités célestes. Il va voir que l'esprit d'oraison et de supplication s'affaiblissant et s'attiédissant en Espagne, eh bien une certaine liberté, mystérieusement, est laissée au pouvoir des ténèbres pour se déchaîner. Et il va dire que la meilleure réponse, et ça c'est dans la veine de Sainte Thérèse d'Avila, hein, la meilleure réponse à donner aux maux de l'Espagne de son temps, c'est celui d'une pratique de l'oraison et de l'intercession accrue et pleine d'espérance, espérant contre toute espérance. Et il va même dire, ceux qui font le plus de bien concret à la société, ce ne sont pas ceux qui s'agitent d'une manière frénétique dans le monde, mais ce sont ceux qui acceptent de prendre un peu de temps pour prier, pour s'associer à la prière des anges et des saints qui est continuelle au ciel, et pour appliquer à un peuple en particulier les mérites de la passion obtenue par Jésus-Christ. Donc ce sont ceux qui acceptent de se poser, prier, intercéder, et ensuite recevoir les lumières suffisantes pour agir dans le monde.
Donc, d'une certaine manière, on peut être révolutionnaire, en fait, tout simplement en choisissant de prier.
Exactement. Et c'est de là que naissent les véritables révolutions, celles qui ne sont pas marquées par le feu et le sang, mais celles qui sont marquées, comme celle de Saint-Vincent de Paul, par une nouvelle croissance de la vie de la charité dans les peuples.
Voilà, on va prendre un extrait de cette émission, comme ça nous servira de teasing pour l'émission mensuelle qu'on a qui s'appelle l'école de la prière avec vos frères Carmes de Toulouse. On fait une deuxième pause musicale et puis on va se balader à la fin de cette émission, dans la dernière partie qui sera un peu plus courte, dans le prochain numéro de cette revue Carmel, à paraître au mois de décembre prochain.
Présence à Belmont-sur-Anse, 93.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc Revue Carmel, plaidoyer pour un renouveau mystique avec le frère Baptiste Carme du couvent de Broussais, près de Bordeaux, et rédacteur en chef donc, de cette Revue Carmel. La prochaine Revue Carmel est à paraître donc en décembre prochain. Donc pour rappel, c'est vos sucres lents, on va dire, des éditions Carmel, puisque vous avez deux revues, donc la revue Vive Flamme, qui est un peu une revue d'accompagnement pour ceux qui essayent ou ont une vie de prière et d'oraison régulière. Donc par exemple, pour ceux qui se sont lancés à la faveur de l'émission L'École de la prière le premier lundi de chaque mois dans une prière régulière. Et puis donc il y a cette revue qui est plus une revue qui se veut être plus de fond et un regard porté sur la regard mystique, pardon, porté sur la société. Alors le prochain numéro donc apparaîtra en décembre.
Oui.
S'appelle Saint et Immaculé en sa présence, S majuscule. On peut comprendre donc que vous prenez prétexte du 8 décembre prochain, date qui a quelques significations quand on est dans la région Occitanie, hein, et qu'on a Lourdes à portée de main.
Exactement.
Rappelez-nous peut-être le 8 décembre prochain ce que c'est et ce que fête l'Église et pourquoi chez nous c'est particulièrement frappant.
Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, et donc toute l'Église célèbre cette grâce qu'a eue Marie dès sa conception d'être préservée de la tâche du péché originel, en raison des mérites acquis par la passion de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la croix de Jésus est pour Marie la source de son salut, qui la préserve du péché et qui la fait sainte dès le premier instant de sa vie.
Alors, on va essayer peut-être d'y aller un peu plus progressivement, parce que si on n'est pas forcément lecteur assidu de la revue Carmel, on est peut-être déjà un petit peu largué. Rappelez donc que ce dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé au XIXe siècle.
Exactement.
Et rappelez la concomitance des apparitions. Est-ce que Marie, oui, donc, aurait dit a dit, c'est la foi de l'Église, à Bernadette?
Tout à fait. Je suis sujet. L'Immaculée Conception, en confirmation du dogme que Pie IX venait de proclamer quelques années auparavant.
Et Bernadette, sur le moment, ne comprenait pas ce qu'elle
avait. Elle ne comprenait pas. Ça a d'ailleurs été pour le curé de la paroisse un signe de reconnaissance et d'authenticité des manifestations surnaturelles dont elle était, l'objet.
Alors juste l'Immaculée Conception, pour ceux qui auraient du mal, en fait, comment se fait-il que l'Église proclame un dogme au XIXe siècle? Est-ce qu'on avait en fait ce regard sur Marie avant?
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on met 19 siècles en fait à avoir cette lumière quelque part?
Mais déjà parce que l'Église prend son temps en toute chose. Donc elle est prudente, elle est sage, et elle laisse les choses mûrir et croître, si bien qu'elles s'épanouissent au temps fixé par Dieu. Et c'est vrai que l'Immaculée Conception a habité la conscience de l'Église depuis le début. Notamment, vous avez un saint Irénée de Lyon qui médite sur le mystère de Marie comme nouvelle Ève. Et si l'on prolonge quelque peu ses réflexions, on se rend bien compte que si elle est en effet la nouvelle Ève, elle doit être préservée du péché originel, comme Ève l'était en sortant de la côte d'Adam. Donc l'Église, pendant des siècles, a médité sur ce mystère, a essayé de le comprendre, ce qui a impliqué certaines controverses théologiques, mais l'a aussi célébré dans sa liturgie. Donc vous avez la source des pères de l'Église qui méditent sur ce mystère, la source de la liturgie qui commence déjà à le célébrer avant de l'avoir proclamé d'une manière dogmatique, la source mystique aussi. Les saints, notamment certains saints du Carmel aussi, hein, ont eu une très haute conscience de ce mystère de l'Immaculée Conception et l'ont vécu dans leur vie intérieure. Si bien que lorsque l'Église le célèbre et que les saints le vivent de l'intérieur, nous avons beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de l'authenticité de cette vérité, et le moment fixé, l'Église, dans sa sagesse, décide de le proclamer.
Donc ça veut dire qu'en fait, pardon, la trivialité de ma question, peut-être pour vous, mais ça veut dire qu'en fait, Dieu, quelque part, continue à révéler au long de l'histoire et via son Église, en fait, des secrets ou des mystères qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans les Écritures.
Ou alors on pourrait dire, comme le dit Saint Jean de la Croix, le Père a tout dit dans son Fils. Donc à partir du moment où Jésus a réalisé le mystère pascal de sa passion et de sa résurrection, tout a été dit. Tout a été dit par le Père. Mais il faut à l'Église des siècles et des siècles pour comprendre la densité de cette parole unique qui nous a été révélée dans le mystère de Jésus.
Donc si vous deviez réexpliquer un peu l'Immaculée Conception maintenant, au regard de cette plus longue introduction, pour les nuls en fait, comment entrer dans ce mystère? Par exemple, il y a un de vos chapitres qui s'appelle l'Immaculée Conception, une grâce pour tous,
oui.
Écrit donc par un frère qui s'appelle le frère Élie Joseph du Sacré-Cœur,
tout à fait.
Le Sacré-Cœur de Jésus, pardon, et qui fait écho à une formule qu'aurait utilisé le pape Benoît XVI, selon laquelle la grâce de l'Immaculée Conception est pour tous. Voilà, et à l'époque, cette phrase avait quelque peu surpris.
Oui, parce que souvent on se figure l'Immaculée Conception comme un privilège de Marie, donc qui ne toucherait que sa personne et qui la séparait du reste des humains. Alors qu'en réalité, toute grâce, qu'il s'agisse de l'Immaculée Conception ou d'une autre grâce, est donnée en vue aussi d'être partagée et elle est donnée en vue du bien de l'Église tout entière. Si bien que l'Immaculée Conception est une grâce en effet pour tous, parce que Marie, en étant absolument pure et parfaite, nous montre le visage de ce que nous devons être lorsque nous serons laissés transformer par la grâce. C'est-à-dire que celui qui se laisse, par la vie d'oraison et la pratique de la charité, par la fréquentation des sacrements de l'Église, celui qui se laisse transformer et purifier par la grâce, va peu à peu, et au fur et à mesure de sa fréquentation de Jésus, devenir de plus en plus ressemblant à Marie dans sa pureté et dans sa beauté.
Alors il y a deux autres points sur lesquels je voulais revenir avec vous. Il y a un autre article,
oui.
De votre revue, qui s'appelle Le secret de la virginité, Palao et l'Église. Donc en l'occurrence, c'est vous qui l'avez écrit,
oui.
Frère Baptiste de l'Assomption, en fait, c'est comme ça que je devrais vous appeler, dans lequel vous développez l'importance de, non seulement, enfin en l'occurrence, vous parlez pas que de la virginité, mais du combat de la chasteté.
Exactement.
Alors, dites-nous un mot et qui pourrait illustrer aussi que cette revue ne se veut pas d'abord ou pas que une revue de haute spiritualité, mais une manière de comprendre le monde et en l'occurrence peut-être l'enjeu qu'il y a.
L'enjeu de la chasteté.
Alors, et rappelez-nous ce que c'est que cet enjeu.
Bien. Bon, il est clair que la société dans laquelle nous vivons actuellement ne favorise pas une vie de chasteté et de pureté au niveau de la vie concrète et du rapport entre les hommes et les femmes. Et pour autant, la pureté à laquelle nous sommes appelés implique aussi cette chasteté concrète dans nos rapports les uns avec les autres, et notamment dans le rapport que certains consacrés, que certains prêtres peuvent entretenir avec leur affectivité. Et ce qui est très beau dans le témoignage du bienheureux François Palao, c'est qu'il va montrer aux hommes, et c'est plutôt sous cet angle-là que j'aborde l'article, il va montrer aux hommes l'objet capable de polariser toutes leurs dimensions affectives et de leur donner, si vous voulez, un contenu satisfaisant. C'est-à-dire un contenu infini, parce que nous avons des désirs infinis et qui ne peuvent se rassasier que d'infini. Et pour Palao, c'est le mystère de l'Église, toute pure et immaculée, manifestée par le visage de Marie, qui va rendre cette chasteté concrète possible au quotidien.
Alors attendez, faites-nous la version, on va dire, grand public. En
la version grand public.
Imaginez quelqu'un qui est célibataire et qui, oui, essaye de vivre cette chasteté non sans difficulté aujourd'hui.
Eh bien, la version grand public, c'est on va faire une méthode d'oraison très très facile. Je suis tout seul chez moi. Je prends un temps de prière. Mon temps de prière peut être habité par une image très pure, c'est celle de la Vierge Marie. Donc je vais me former au centre de mon âme une représentation de Marie telle qu'elle est apparue par exemple à Lourdes. Et je vais poser mon regard sur elle qui va dans la foi m'indiquer la source même de la pureté. Et Marie va me renvoyer à un mystère d'une pureté encore plus grande qui est celui de l'Église. L'Église tout entière qui est sainte et immaculée, puisque le Christ l'a purifiée et veut la rendre toute pure à la fin des temps.
Et alors en quoi ça m'aide ?
Et en quoi ça m'aide ? C'est que ce regard sur la source de la pureté que je vais poser, manifesté par un regard féminin, par un visage féminin, va me faire contempler ensuite toutes les autres personnes à l'aune de cette pureté idéale manifestée par Marie. Si bien que je vais regarder dans mon frère ou dans ma sœur l'image de l'enfant de Dieu qu'il est appelé à devenir. Et c'est cette image-là que je vais chercher quand je croiserai le regard de telle ou telle personne dans la rue. Voilà.
Donc il faut lire la revue Carmel, en tout cas il faut la lire, et puis peut-être pour comprendre un peu plus que ce que vous venez de signifier et ce chapitre donc dans cette revue apparaître en décembre prochain. Je voulais qu'on finisse l'émission, il y a un autre article qui parle du scapulaire. Alors redites-nous aussi ce qu'est le scapulaire et pourquoi vous en parlez à la faveur de ce prochain numéro.
Bon, le scapulaire, c'est une dévotion assez antique du Carmel qui a pour but de nous faire revêtir la Vierge Marie elle-même, c'est-à-dire de nous introduire dans les sentiments de Marie à l'égard de Dieu et du prochain. Et notamment, une des notes qui est assez caractéristique dans la spiritualité carmélitaine, justement, c'est cette pureté de la Vierge Marie. On a célébré le mystère de l'Immaculée Conception depuis longtemps et nous avons comme aspiration à devenir pure comme elle. Et le scapulaire, c'est un moyen concret de recevoir sa propre pureté. La petite Thérèse, par exemple, elle nous dit que le manteau de Marie, que le scapulaire représente d'une certaine manière. Hein,
alors, rappelez ce que c'est déjà, tout simplement, le scapulaire.
Le scapulaire, c'est un petit tissu que l'on peut recevoir qui, en fait, trouve sa source dans le scapulaire que les religieux portent depuis le Moyen-Âge et qui a été rendu accessible à tous les laïcs sous une forme miniature ou en médaille pour qu'ils puissent bénéficier de cette même grâce.
Voilà, donc c'est un petit morceau de tissu qu'on se met autour du cou.
Exactement, et qui signifie notre consécration à Marie. Et donc, cette consécration, justement, nous fait entrer dans les sentiments de Marie et nous virginise intérieurement.
C'est utilisé assez largement,
est-ce que... Oui, et alors, il y a eu une grande efflorescence de cette dévotion au cours des siècles. Il y a même un moment, justement, ce grand siècle-là du XVIIe siècle, où il était quasiment systématique de donner le scapulaire aux enfants après leur baptême. Donc, c'était le signe d'une grande dévotion mariale aussi au sein de l'Église, en tout cas en Europe. Et cette dévotion reprend actuellement une nouvelle ampleur. Des groupes du scapulaire commencent à se former et de plus en plus de demandes de recevoir le scapulaire naissent aussi au sein de nos couvents et même ailleurs, puisque ce n'est pas une grâce qui est réservée au Carmel en tant que telle, mais qui est pour toute l'Église.
Est-ce que vous offrez un scapulaire pour chaque abonnement
Ah, c'est une bonne idée, c'est à réfléchir.
Voilà, merci beaucoup frère Baptiste. On donnera peut-être un site internet pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur la revue Carmel ou qui voudraient s'abonner. www.éditionducarmel, édition au pluriel, le tout sans accent, www.éditionducarmel.com. Voilà, merci beaucoup d'être
merci.
Venu nous parler de cette revue ce matin depuis Bordeaux, puisque je crois que vous avez fait le voyage en partie pour nous. Merci. Cette
merci
émission
beaucoup.
A été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.